Agir ABCD, le collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois et RVM Radio du Valois-Mulsien se sont associés pour que les élèves de 3e réalisent une audiothèque compteur de métier.
Vous pouvez retrouver notre audiothèque compteur des métiers sur le site www.radio-valois-mulsien.fr.
Et tout de suite, compteur de métier, cadre supérieur.
Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?
Je ne sais pas ce que je veux faire.
Je ne sais pas ce que je veux faire.
Tu n'as aucune idée ?
Boulanger, pâtissier.
Graphiste.
Je veux peut-être devenir ingénieur.
Éclairagiste.
Plus tard, j'aimerais faire médecin, photographe.
Maçon. Avocat.
J'aimerais bien faire cadre supérieur.
Découvre les métiers.
Ouais. Oh.
Grâce à l'option DP3
du collège Jean de La Fontaine,
tu crées bien ma loi.
Nous avons pu réaliser l'émission Les jeunes découvrent les métiers.
Et nous avons interviewé
9 professionnels.
Les jeunes découvrent les métiers.
Bonjour, nous sommes sur Radio Valois-Mulsien 93.7 pour l'émission Les jeunes découvrent les métiers, animée par les 3e du collège Jean de La Fontaine. Au micro, Dylan, aujourd'hui j'anime cette émission avec Manel.
Bonjour.
Marie.
Bonjour.
Et Hugo.
Bonjour.
Nous accueillons monsieur Yann Machelin.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'entreprise Générale Électrique. Pouvez-vous en quelques mots nous décrire votre métier ?
Je suis directeur à l'intérieur de l'entreprise General Electric. General Electric, c'est une des plus grandes entreprises dans le monde. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il y a à peu près 300 000 personnes, un petit peu plus, 340 000 personnes qui travaillent pour General Electric. Et moi, je suis directeur d'une des divisions à l'intérieur de General Electric. Pour donner un exemple, ce que General Electric fait, et ça va vous parler un petit peu plus, General Electric, par exemple, fabrique un des deux moteurs d'avion dans le monde. Donc quand vous prenez l'avion, les moteurs de l'avion, 1 sur 2 sont fabriqués par General Electric. General Electric fabrique des trains, fabrique des, comment on dit ça en français, des scanners dans des hôpitaux. General Electric fabrique tout ce qui est les équipements électriques que vous avez chez vous à la maison, les disjoncteurs. Fabrique des trains, fabrique des centrales électriques, des centrales classiques, des centrales renouvelables, des éoliennes. Et donc moi, je suis directeur de toute l'activité d'entretien, de maintenance, sur des composants électriques qui sont liés à des centrales électriques. Et donc j'ai 2000 personnes sous ma responsabilité qui sont reparties dans à peu près 35 pays et dans une cinquantaine d'unités dans le monde entier. Donc j'ai mon bureau à Paris, à La Défense, où j'ai une petite équipe, 25-30 personnes. Et puis je me trouve souvent dans les avions où je vais visiter les équipes qui se trouvent à Sao Paulo, à Singapour, à New York et où je vais visiter les clients.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Quand j'étais à l'école, moi j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est l'économie, la fonction économique. Mon père, il avait fait les études d'ingénieur, il avait fait école polytechnique, et donc j'étais un peu poussé pour faire les mêmes études. Donc j'ai fait école polytechnique en Belgique, j'ai passé une partie de mes études en Belgique, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Et puis ensuite, quand j'ai fini mes études d'ingénieur, il y avait plusieurs entreprises qui se sont présentées. Et moi j'étais ingénieur dans ce qui était mécanique électrique. Et une des entreprises qui s'est présentée, c'était une entreprise suisse-suédoise qui s'appelle ABB. Vous ne connaissez peut-être pas parce que ce sont des entreprises qui ne vendent pas directement, comment dirais-je, à des particuliers, mais ils vendent à d'autres entreprises. Et donc, j'ai commencé à travailler pour cette entreprise en tant que commercial. Puis, j'ai fait un rôle comme chef de projet et puis j'ai évolué. Cette entreprise a été reprise par d'autres entreprises et c'est comme ça que je suis arrivé dans la position où je me trouve maintenant. Donc, est-ce que c'est un choix délibéré? Je sais pas, parce que je pense comme chaque enfant, moi j'ai rêvé d'être joueur de foot, puis je voulais être pilote de chasse, puis l'école m'a poussé pour être avocat, médecin, et donc finalement, bon, je suis arrivé dans le métier où je suis maintenant.
Et quel a été votre cursus scolaire ?
Mon cursus scolaire, bon, je l'ai expliqué très rapidement, donc vous l'entendez sans doute à l'accent, je suis d'origine de la Belgique. Ma langue maternelle, c'est le néerlandais, donc j'ai fait mes études à la Belgique, j'ai été à l'école comme vous. À la fin de mes études, moi, je voulais faire plutôt économie, créer mon propre business, etc. Mais j'avais des très bons résultats en maths et c'est comme ça que j'ai fait les études d'ingénieur. Et c'est ça qui a fait que je suis arrivé dans ce poste.
Combien de langues parlez-vous ?
Moi, je considère que je parle 3 langues. Je parle néerlandais, qui est ma langue maternelle.
Je parle le français et je parle l'anglais. Entre les langues, l'anglais est plus facile pour moi que le français. Parce que je trouve que c'est une langue qui est plus facile, qui est plus proche du néerlandais, et donc je me sens mieux en anglais qu'en français. Mais j'habite maintenant en France depuis 12 ans, donc je pense que je maîtrise plus ou moins le français, mais j'aurai toujours l'accent. Anglais, je suis plus à l'aise qu'en français. Et puis je comprends parfaitement l'allemand, donc je peux suivre des conversations ou des réunions en allemand, mais je ne parle pas l'allemand. Et après, quand tu voyages beaucoup, tu commences à avoir quelques notions de l'espagnol, du portugais, etc. Mais c'est vraiment extrêmement limité. Donc je considère que je parle trois langues. Mais c'est une bonne question parce que c'est vraiment très, très important. Pour moi, c'est la base de tout. À l'école, c'est très important que vous pratiquiez les langues. Quand vous pouvez, vous faites un échange avec d'autres enfants. Vous partez en Allemagne, vous partez en Angleterre. Et si vous n'avez pas la possibilité de partir, vous essayez de regarder les films en anglais, en version originale, etc. C'est vraiment très, très important.
Et depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Depuis combien de temps ? Bon, ce poste dans lequel je suis maintenant, je le fais depuis début 2012. Donc, la responsabilité que j'ai maintenant depuis 2012. Mais j'ai pas vraiment changé de métier. Donc, j'ai commencé un peu comme ingénieur et puis on évolue au sein d'une entreprise. Et quand on travaille dans une très grande entreprise, au début, ABB, c'était 200 000 personnes. Après, c'était Alstom, une société française, c'était 100 000 personnes. Maintenant, General Electric, c'est une des plus grandes entreprises dans le monde, 330 000 personnes. Donc, on évolue à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on peut dire que je le fais dès que j'ai fini mes études. De l'autre côté, on peut dire que ce que je fais maintenant, le rôle maintenant, la responsabilité que j'ai, je l'ai depuis 4 ans.
Et quel défi se donne un cadre supérieur au 21e siècle ?
Quel défi ? Je pense qu'il y en a plusieurs et je pense qu'on peut le même relater à ce que vous vivez vous-même en tant qu'enfant à l'école, etc. Je pense qu'un des défis, c'est que si on parle du 21e siècle, c'est que le monde, ça change très vite et ça change beaucoup. Et si j'ai dit change très vite, il y a d'abord les différentes cultures, les différentes religions, les différentes choses qui se passent dans le monde. Vous regardez aussi les journaux, vous écoutez la radio, etc. Et vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses. Et donc, ce qui est très, très important, c'est savoir comment se positionner dans ce monde et comment faire la part des choses. Et pour ça, c'est très intéressant d'être, ou très important d'être en contact avec d'autres cultures, avec d'autres langues, etc. Vous comprenez beaucoup mieux. Si on reste dans son village et on regarde uniquement toujours la même émission sur la télé, etc., vous n'allez pas avoir un esprit ouvert. Donc ça, c'est un challenge pour moi dans le 21e siècle. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a des pays, des régions dans des pays qui sont en croissance, qui sont en développement. Il y en a d'autres où ça ne va pas très bien. Si on regarde par exemple très loin, le Venezuela est un pays qui ne va pas très bien. Vous savez tous que c'est très compliqué au Moyen-Orient. Après, vous avez l'inverse, où vous avez des pays en Asie, comme la Thaïlande, le Taïwan, même certains pays du Moyen-Orient où le développement il est fabuleux. Donc il faut essayer de comprendre ça et naviguer dans tout ça. Et deuxièmement, je pense que c'est tout ce qui est informatique et Internet. Moi, je suis très en faveur qu'on utilise les outils modernes, etc., qu'on passe du temps sur l'ordinateur, mais il faut aussi faire la part des choses et parfois arriver à prendre une feuille blanche et de faire les choses sur une feuille blanche. Et pourquoi j'ai dit que c'est très important ? Parce que ça ouvre des opportunités énormes. Dans l'entreprise, on travaille beaucoup ce qu'on appelle sur les objets connectés. Les objets connectés, c'est quoi par exemple ? C'est quand vous avez un parc de trains, c'est savoir quel train, à quel moment où il est, quel train, quand il a un problème technique, comment faire marcher un autre train. Et lié à ça, on peut même aller beaucoup plus loin. On peut commencer à proposer, un changement de séjour dans les hôtels pour les gens, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont connectées, les objets connectés. Et ça, je pense, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, aujourd'hui, c'est hyper important. Ce n'est pas facile. J'avais lu récemment un article où il disait que vous-même, aujourd'hui, en 2 ans, vous recevez autant d'informations que moi-même, j'ai reçu à votre âge en 12 ans. Ce qui rend les choses extrêmement compliquées pour vous. Mais le volume d'informations que vous recevez maintenant, il est 10 fois plus important qu'on avait à l'époque.
Comment gère-t-on 2000 personnes ?
Je pense qu'il y a aussi plusieurs choses dans ça. D'abord, moi je ne connais pas les 2000 personnes individuellement, même si j'aimerais bien. Ce qui est important, c'est de déléguer, de recruter les bonnes personnes. Ça, c'est très important. C'est d'avoir des gens qui sont dans leur domaine et qui sont très, très forts dans ce qu'ils font et qui se sentent bien dans ce qu'ils font. Et après, on leur fait confiance. La confiance, ça vient après un certain temps. Et on leur délègue des responsabilités. Je donne un exemple concret. Quand je vais, par exemple, à Singapour, il se trouve mon directeur régional qui est responsable pour toute cette zone Asie là-bas. Singapour, Thaïlande, Japon, Corée, Australie. Donc moi, je vais lui voir. Et lui, il a son équipe et il a un responsable pour l'Australie. Il a un responsable pour Hong Kong. Il a un responsable pour la Chine, etc. Donc il y a une sorte de délégation. Comme un peu, je pense, à l'école, vous avez le directeur de l'établissement, vous avez des professeurs pour chaque classe, etc. Vous ne pouvez pas avoir un professeur pour tous les 4e ou 6e. Ça serait juste ingénable. Donc il y a ça, il y a la délégation. Et ce qui est très important, c'est inspirer les gens. C'est faire en sorte afin que les gens se sentent bien. Et moi, je suis vraiment convaincu que chaque personne a quelque chose en lui qui le rend très, très bien dans un certain domaine. Il faut juste le détecter. Il faut aussi que la personne le sait.
Pouvez-vous nous décrire une journée de travail ?
Moi, je ne fais pas grand-chose dans une journée. Mais une journée typique, on peut dire, je vais en décrire deux. Une journée typique, c'est quand je suis à l'autre bout du monde, à Singapour. J'arrive avec un vol de nuit qui part ici à minuit un dimanche soir. J'arrive là-bas le matin, je prends une douche dans l'hôtel. J'enchaîne tout de suite avec des réunions où je vois mon équipe, où je vois des clients. J'ai un déjeuner avec, je sais pas, ça peut être un ministre, ça peut être un sous-ministre. Ce que j'adore faire, c'est aller voir mes équipes sur les chantiers, parce qu'on travaille sur les équipements électriques. Donc j'ai des gens qui sont hyper spécialisés, qui travaillent avec leurs mains sur les chantiers. Et c'est quelque chose de formidable. Et moi, j'adore aller sur le chantier. J'adore l'odeur de l'huile, etc. Ou je me promène dans les ateliers. On a des ateliers de réparation, de fabrication. Donc je me promène dans mes usines, pas mes usines, les usines que je pilote, et je vais discuter avec les gens. Après le soir, bon, c'est souvent un dîner, donc je passe pas mal de temps à table, à discuter. Et donc, on peut dire que toute la journée, moi, je raconte toujours à mes enfants, quand ils disent qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, ben, je discute toute la journée. Je discute. Et parfois, je me sens pas très utile, mais bon, après, ok, c'est un peu mon métier. Donc, ça, c'est quand je suis à l'étranger. Et quand je suis à Paris, c'est pas tellement différent. Mais une journée typique, c'est je me lève à 6 heures. À 6h30, 6h45, je suis dans la voiture. Bon, j'habite sur Senlis, donc bon, vous connaissez le trajet Senlis-Paris. Le matin, il y a pas mal de bouchons, donc il faut être parti avant 6h45 si on en est dans le bouchon. J'arrive au bureau, disons 8h, 8h30, je prends un café et puis j'enchaîne avec des réunions jusqu'à, disons, 19h30 le soir. Et après, je rentre et je travaille de temps en temps aussi un peu pendant le week-end. Ouais. Mais c'est un choix.
Et pour voyager, vous avez un avion privé ou
non. Public ? Non, mes patrons, mais il y en a mes patrons qui ont pas leur propre avion, mais qui ont l'avion privé de l'entreprise. Non, moi je voyage avec Air France. En Europe, je voyage en classe économie. Je voyage même de temps en temps avec des compagnies comme EasyJet, etc. Des compagnies low cost. Quand c'est des voyages longs, je voyage en général si les prix sont intéressants avec Air France. Et voilà. Non, je voyage en business, mais bon, c'est pour pouvoir dormir, c'est pas pour s'amuser.
Mais vu que vous vous déplacez un peu partout dans le monde, oui. Il y a des contraintes familiales.
Ah oui, bah, il faut composer avec. Je suis convaincu que le temps qu'on passe avec les enfants ou avec sa femme, c'est la qualité qui compte. C'est pas forcément la quantité. Évidemment, il faut une certaine présence, mais ce qui est très important, c'est la qualité. Mais c'est vrai, c'est pas toujours facile et je suis très reconnaissant pour les gens qui vivent avec moi qu'eux, ils arrivent à supporter ça parce que ça doit pas être facile.
À une de mes ouvrières, hein? Saligo! Grossier personnage qui lui m'attend! Je vais te changer de machine, ma chérie, elle est trop dure celle-là.
Est-ce que vous nous conseillez ce métier?
Oui, parce que je suis fier de ce métier, c'est un métier très sympa. Et je pense, et parfois on rigole quand je dis ça, je pense qu'il est même accessible à beaucoup de personnes. Il y a un secret, il faut travailler, il faut bosser. Il faut bosser dès à l'école, il faut commencer à bosser. Moi, je dis à l'école, je ne bossais pas beaucoup. J'étais peut-être un peu doué, j'avais des très bons résultats et j'ai pris une grosse claque. Je ne sais pas si je peux me permettre d'utiliser ce type de mots, de ce type de langage, mais j'ai pris une grosse claque quand j'étais, je dirais, en seconde premier. Parce que j'étais toujours premier de la classe et après, j'étais deuxième. Et là, je me suis rendu compte que je devais vraiment travailler, je devrais apprendre. Et donc, et là, j'ai compris. Et je pense que si on est motivé dans quelque chose, indépendamment de ce qu'on fait, même si on veut devenir joueur de foot, on veut devenir chanteur ou on est boulanger, je pense que ce qui est très important, c'est travailler. Et je suis convaincu que les gens qui réussissent, la partie talent où la partie purement intellect, c'est juste la base. Et ce qui fait la différence, c'est le travail.
Mais du coup, si vous conseillez ce métier, vous avez des conseils à donner ?
Le premier conseil, de nouveau, c'est travailler, travailler, travailler. Puis, un autre conseil, c'est toujours avoir du respect par rapport à d'autres personnes, indépendamment qui est la personne. Et je ne veux pas être arrogant du tout, mais j'adore discuter avec les ouvriers dans les ateliers. J'adore. Et c'est très important de jamais savoir, de jamais oublier d'où on vient et d'avoir toujours ce respect. Parce que c'est comme ça qu'on obtient les choses et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on comprend. Et jamais dire quelque chose que vous ne souhaitez pas que les gens disent à vous. Je pense être honnête et transparent. Et parfois, c'est un peu difficile pour certaines personnes. C'est-à-dire que quand, par exemple, l'activité que j'ai pilotée, elle va très bien. En France, on a presque doublé l'effectif en 4 ans. Mais il y a d'autres activités où c'est plus difficile. Et il y a des restructurations, il y a des licenciements. Je pense qu'il est très important, et j'ai déjà dû le faire, j'ai déjà dû fermer une usine à Paris, à la Courneuve. Ce qui est très important, c'est d'être honnête avec les gens et très transparent. Ce n'est pas facile, mais il ne faut pas tourner, faut pas tourner autour du pot. Donc, il y a d'autres points aussi, hein, s'adapter en permanence au monde du 21e siècle. Mais je pense que travailler, avoir du respect et être honnête et transparent, ça, c'est très important. Après, il y a des trucs de base comme les langues, je ne peux pas insister plus. Les langues sont hyper importantes. Si moi, je ne parlais pas très bien l'anglais, je n'irais jamais dans le poste où je suis maintenant. Toute mon équipe, il y a des gens dans mon équipe qui sont de l'Inde, de la Belgique, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. On parle tous et on communique tous en anglais.
Vous sentez-vous valorisé par votre métier ?
Moi, oui. Bah, après, la valorisation, c'est... Si vous pensez au niveau de rémunération, oui, c'est le cas. Oui, dans une entreprise américaine, si on bosse bien, on gagne bien sa vie. Donc oui, c'est le cas. Je trouve que c'est normal, c'est important. Il faut être valorisé à juste titre. Je pense que le niveau de rémunération, c'est la base. Et après, ce qui est très important, c'est que les gens se sentent valorisés. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est important qu'on leur dise « Écoutez, vous travaillez bien, etc. » Pour d'autres personnes, ça suffit qu'on leur dise une fois. Mais c'est extrêmement important, la valorisation. Moi, je me sens valorisé, oui. Sinon, je ne serai plus dans cette entreprise. Je n'ai pas encore 60 ans. Je connais à peu près la valeur sur le marché. Si je ne me sentais pas bien dans mon poste ou dans l'entreprise, je quitterais l'entreprise et je chercherais autre chose. Peut-être un salaire qui serait la moitié du salaire que j'ai aujourd'hui. Mais si je ne me sentais pas valorisé, je ne ferais pas ce poste. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a des métiers où les niveaux de rémunération ne sont pas du tout les mêmes. Et je pense que les gens qui le font parce qu'ils se sentent valorisés.
Et vous avez parlé de salaire, mais combien gagne un cadre supérieur et par qui est-il payé ?
Combien gagne... C'était quoi la question ? Combien gagne... En reposant la question, je gagne un peu de temps.
Combien gagne un cadre supérieur et par qui est-il payé ?
Par qui est-il payé ? Ah, je vais commencer par la deuxième partie. C'est la partie la plus facile. Mais il est payé par l'entreprise. Mais comment est-ce que l'entreprise le paye ? L'entreprise le paye par les bénéfices que l'entreprise fait. Combien gagne un cadre supérieur ? Je vais vous donner une fourchette. Ça peut être tout. J'ai des gens dans mon équipe qui ont fini l'école à 16 ans. Et aujourd'hui, ils ont la même responsabilité que moi. Et ces gens, quand ils ont fini l'école, s'ils finissent aujourd'hui l'école à 16 ans, ils gagnent peut-être le SMIC, peut-être un petit peu plus. Pas beaucoup plus. Si vous êtes ingénieur polytechnique en France et vous sortez des meilleures écoles polytechniques, je pense qu'aujourd'hui, vous commencez à, je ne sais pas, 4 000 € net par mois. Vous voyez toute la fourchette ? C'est entre 1 500 et 4 000 € net par mois. Après, si vous prenez les gens qui font partie de la direction, ces personnes, ils gagnent tous largement au-dessus de 5 000 000 € par an. Certains au-dessus de 10 000 000 € par an. Mais c'est des exceptions. C'est comme un joueur de foot. Si vous demandez combien un joueur de foot gagne, quelqu'un va vous répondre. Si vous jouez en, je sais pas, CFA, bon, je sais pas, il gagne peut-être 3 000 € net par mois. Si vous prenez un Cristiano Ronaldo, c'est complètement différent. C'est pareil dans l'entreprise. Oui, pour certains métiers, certaines responsabilités, ça monte et ça peut monter très très vite. Et ça monte encore plus vite dans des entreprises américaines. Si vous prenez les grands patrons des entreprises françaises, ils sont peut-être à 5 millions par an. Aux États-Unis, c'est 15 à 20 millions d'euros par an. Donc ça fait peut-être rêver, mais c'est des exceptions. Donc si vous partez sur la base en disant... Dépendant de ce que vous allez étudier, dépendant dans lesquels vous allez vous investir, vous allez commencer entre 1 500 € net par mois et 4 000 € net par mois. J'ai commencé, j'avais 3 000 € net par mois.
Vous avez quel diplôme ?
J'ai le diplôme de ce qu'on appelle ingénieur polytechnique. Donc j'ai fait école d'ingénieur en Belgique. Et après, j'ai fait des programmes de management.
Pouvez-vous nous décrire vos outils de travail?
Je pense que c'est mon cerveau. C'est ça mon outil de travail. C'est mon cerveau. Vous pensez à l'ordinateur, etc. Oui, j'ai un ordinateur portable, j'ai un téléphone portable. Et c'est ça mes outils de travail. Et parfois, je m'énerve quand Internet ne fonctionne pas. Pour mes équipes, l'outil de travail, c'est la caisse d'outils. Il y a des gens qui travaillent sur chantier, qui font des opérations extrêmement compliquées et qui sont très, très bien payés. Et c'est pour ça que je viens aussi ici, parce que je veux vraiment mettre ça en avant. Il y a du travail et de la place pour tout le monde. Et je suis très, très, très admiratif par rapport à des gens qui font un métier avec leurs mains, qui est relativement complexe techniquement.
Avez-vous peur ou êtes-vous parfois angoissé au début d'une journée?
Jamais, jamais. Mais c'est peut-être pas bon. Je ne suis pas quelqu'un qui est stressé. Les gens qui me connaissent, ils vont le confirmer. Je ne peux parfois pas être satisfait. Je peux parfois être un peu énervé. Mais est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis angoissé? Non, même quand je fais des présentations à mes patrons. Il y a 3 semaines, j'étais avec le numéro 1 de General Electric. On a discuté à deux. Et non, je ne me suis pas senti stressé. Mais j'ai dit toujours, ça vient peut-être avec l'âge parce que je connais à peu près la valeur sur le marché et je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. J'essaie de faire les choses d'une façon honnête et transparente. Et après, tout le monde peut faire des erreurs. Il n'y a vraiment aucun souci à faire des erreurs. Et je préfère même les gens qui font des erreurs. Parce que si tu fais 10 choses dans une journée, je suis convaincu que c'est nettement mieux qu'une personne qui ne fait rien et qui est un peu, je dirais, amorphe. Et sur 10 choses que vous allez faire, quand vous n'avez pas d'expérience, vous allez faire 6 choses bien et 4 choses pas bien. Ce n'est pas grave. Après, avec l'expérience, c'est peut-être 8 choses bien, 2 choses pas bien. Ça vous fait progresser vous-même et le monde autour de vous beaucoup plus par rapport à si vous ne faites rien. Et donc, si vous faites une erreur, il faut apprendre de l'erreur. Donc, non, je ne suis pas trop angoissé ou stressé.
Qu'aimez-vous dans votre métier, en fait?
Un peu tout. J'aime les moments avec mes équipes et aussi avec les clients, parce que c'est très important quand les clients sont satisfaits. Ce sont des moments super quand on reçoit une lettre de reconnaissance d'un client ou quand on fait quelque chose ensemble avec un client. Parfois, on développe des projets avec des clients et les clients demandent est-ce qu'on peut présenter ce projet avec vous sur une grande foire ou un grand séminaire ou un grand congrès. Donc ça, c'est des moments super. Et puis aussi l'équipe, quand l'équipe se sent bien, même si les résultats sont peut-être pas toujours super, évidemment, ça aide quand les résultats sont bons. C'est ça qui procure le plus grand plaisir. C'est ça ce que j'aime le plus. Quelque chose qui n'est pas très tangible, on ne peut pas l'écrire comme ça. J'ai eu des chantiers où on a eu des décès. On a des gens qui sont décédés. Donc ça, c'est les moments les plus horribles, les plus difficiles. Où il faut accompagner la famille, où on doit leur expliquer que leur fils est décédé parce qu'il s'est fait électrocuter. Donc ça, c'est des moments horribles.
Quelle est la décision la plus difficile que vous avez dû prendre?
C'est une bonne question. Les décisions très difficiles, en anglais, ça on appelle ça compliance, c'est l'éthique. Par exemple, j'ai une équipe en Chine. La personne qui pilote l'équipe en Chine, c'était un gars super, qui voulait le bien pour ses gens, etc. Quelqu'un a donné des sous-tables aux clients. Il a donné de l'argent en plus pour avoir un contrat. Donc, il a dit à un client, si vous achetez mon produit, je vous donne de l'argent en plus. Donc, c'est de la corruption. Et lui-même, il était au courant de ça et il a fermé ses yeux. Il ne s'est pas enrichi lui-même. Il a fermé ses yeux parce qu'il voulait protéger son collaborateur et parce qu'il dit que c'est pour le bien du business et parce que tout le monde le fait en Chine. Et on ne peut pas accepter ça. Il y a des règles et j'ai dû le licencier. Pareil à l'école, si vous vous faites expulser à l'école, les autres écoles le savent, vos amis le savent, ce n'est pas top. Et donc, en Chine, c'est pareil. Et j'ai eu du mal parce que mon cœur disait « Non, Yann, tu ne vas pas faire ça. » Mais désolé, il y a l'honnêteté, il y a la transparence, il y a des règles et j'ai dû licencier. Donc ça, c'est des décisions difficiles.
Et quand vous êtes arrivé au poste de cadre supérieur, vous vous êtes dit quoi la première fois?
Je n'ai jamais eu ces questions. Je ne sais pas, quand j'ai une nouvelle équipe ou quand j'arrive dans un nouveau poste, d'abord, je commence à expliquer que je ne parle pas bien le français et l'anglais. Et donc, c'est possible que je ne comprends rien du tout, que je m'exprime mal. Et c'est aussi une facilité de faire ça, parce que ça me permet, c'est comme reposer une question. Ça me permet de dire, bah, écoutez, désolé, je n'ai pas compris. Et ça donne du temps et ça donne une sorte de crédibilité. Puis aussi, ce que je fais, c'est de dire, moi, j'y suis juste là pour essayer de nous faire fonctionner mieux. Les gens dans mon équipe, individuellement, ils sont plus forts que moi dans leur domaine. c'est hyper important dans une équipe. C'est comme dans une équipe de foot. Le coach d'une équipe de foot, c'est pas forcément le meilleur joueur de foot. Et donc, ce qui est hyper important, c'est d'avoir chaque personne à la bonne place. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, qui veulent être le meilleur en tout. Et moi, par exemple, mon directeur technique, il connaît très bien les produits techniquement. Moi, je ne connais pas les produits techniquement. Bon, je connais à peu près comment ça fonctionne. Mais si je n'ai pas lui, je suis mort. Je ne peux rien faire. Et je lui dis, techniquement, c'est toi qui connais. Je dis donc, je te fais confiance. Donc, je dis toujours ça. Quand tu arrives dans un poste en tant que cadre supérieur, et c'est ça que le mot dit, c'est l'encadrement. Le cadre, c'est l'encadrement de l'équipe. Donc, tu n'es pas censé être le champion de l'équipe. Il faut essayer de ne pas l'être. Il faut essayer d'être juste la mayonnaise qui fait mieux fonctionner l'équipe.
Et quand des fois vous allez sur des chantiers, vous mettez la main à la pâte?
Non, je ne mets pas la main à la pâte parce que ça serait dangereux et je pense que l'équipement s'envolerait en l'air. Parce que comme j'ai dit, je ne connais pas les équipements techniquement. Donc si moi je vais commencer à prendre une clé pour donner un coup de main, je pense que c'est plus contre-productif qu'autre chose. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire, j'aimerais bien le faire, mais je vais plutôt leur demander de m'expliquer l'opération. Mais moi-même faire l'opération, non, je ne ferai pas. Ça serait vraiment dangereux. Et vous seriez dans le noir ici.
Le temps de cette émission est écoulé. Nous remercions Monsieur Yann Machelin de nous avoir consacré cette émission.
Avec plaisir, avec le plus grand plaisir. C'est très sympa. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Pour moi, le métier de directeur, c'est savoir diriger ses ouvriers.
Pour moi, le métier de directeur, c'est avoir beaucoup d'employés en dessous soi, pouvoir les écouter.
Pour moi, le métier de directeur, c'est faire avancer le monde.
Alors pour moi, c'est vendre aux clients et être à l'écoute de ses employés.
Pour moi, le métier de directeur, c'est diriger plusieurs employés et ne pas se sentir être le meilleur.
Le métier de directeur, c'est écouter ses employés, aller les voir de temps en temps.
Pour moi, le métier de directeur, c'est encadrer une équipe pour l'amener à un meilleur niveau.
C'était super bien.
D'en savoir plus sur certains métiers.
C'était
les jeunes découvrent les métiers.
C'était RVM.